C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, comment ça va?
Ça va, bah c'est à toi que qu'on pose la question.
Ouais, bah écoute, moi, ça va super, un retour de vacances. Ouais. Bon, ça va comme un lundi de rentrée, quoi, tu sais, ouais. Où t'as fait ta petite nuit d'avant de réattaquer, mais en même temps, t'es reposé d'une semaine de vacances. Donc tu rentres avec la rage, avec
il
les
est... Il est en grande forme, Adjane Chélil. Voilà, attendez-vous. Voilà, le Super Daily repasse.
Doucement quand même.
Le Super Daily repasse en quotidienne déjà, ouais, à compter d'aujourd'hui. Donc attendez-vous à voir Adjane Chélil en pleine bourre.
Ah oui, attention, grosse rentrée des classes dans le Super Daily.
Allez, aujourd'hui, veille social media. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours sur les plateformes? Par quoi tu veux commencer, Adjane?
Moi, je vais commencer par une news qui m'a. Bon, c'est peut-être une habitude depuis 3-4 ans, maintenant 4 ans et quelques, dans le Super Daily. J'ai l'impression qu'on en parle quand même régulièrement. Mais là, une fois de plus, Facebook se distingue par rapport à ses données perso, le groupe Meta en tout cas, puisqu'il y a un rapport sur l'absence de traçabilité des données personnelles des utilisateurs du groupe Meta vient de sortir. C'est les ingénieurs du groupe Meta qui ont alerté sur ce sujet, donc ça vient carrément de l'interne. On sait aussi qu'en ce moment, l'Union européenne elle vient d'adopter une loi qui va limiter les publicités ciblées et les algorithmes des plateformes sociales. Ça s'appelle le Digital Services Act. Donc en gros, l'idée c'est de dire qu'on veut plus de traçabilité, justement, qu'on veut pouvoir dire que si certaines personnes n'ont pas envie de partager leurs données, ils peuvent bloquer certaines données qui ne seront pas réutilisées dans du publicitaire ciblé, dans des par les algorithmes des plateformes, etc. Et eux, les ingénieurs du groupe Meta, ils disent c'est simple, pour nous c'est impossible de dire d'où viennent les données des utilisateurs déjà. On sait même pas exactement où elles sont stockées. Il y a tellement d'endroits où c'est stocké par Facebook qu'on ne sait pas telle personne, ses données personnelles à elle, où elles sont stockées dans le monde. Ce qui fait que déjà, c'est compliqué parce que ça empêche de faire tomber ces données personnelles sous une certaine juridiction. On ne sait pas si c'est en Europe, aux États-Unis, si c'est ailleurs. Et puis, au-delà du stockage qui fonctionne du coup comme ils appellent ça sur un système de frontières ouvertes, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on a aussi la problématique de ne pas savoir d'où viennent les informations qu'on a récoltées sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir de l'intérieur de Facebook, elles peuvent venir d'applications tierces qui travaillent en collaboration avec Facebook, elles peuvent venir de pas mal d'endroits différents, et du coup, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, donc on ne sait pas comment les trier. Et ce qui fait qu'il existe, en gros, aucun moyen de savoir si l'information de Thibaut Tourvieille de Labrou, quand il a dit qu'il aimait le Nutella, on ne sait pas si ça vient de Facebook directement, d'une pub sur laquelle il serait tombé, d'une application tierce qu'il a téléchargée en lien avec Facebook. C'est très très...
un bloody bulga de data, quoi.
C'est super flou, et les ingénieurs eux tirent la sonnette d'alarme en disant il faut qu'on s'adapte, parce que sinon on va jamais pouvoir s'adapter à cette nouvelle loi européenne. On est complètement à côté de la plaque, et pour le moment tel que c'est fait aujourd'hui, c'est impossible qu'on se remette sous cette loi européenne. Donc du coup eux ils proposent un nouveau système de rangement qui leur permettrait déjà, sur tout ce qui vient depuis les plateformes sociales de Meta, donc Instagram, Facebook, tout ce qui vient directement de cette plateforme sociale, ça leur permettrait de pouvoir déjà savoir ça, où est-ce que c'est rangé, qu'est-ce qu'on a comme information sur telle personne, et comment après on peut...
C'est dingue qu'on en soit là, hein, parce que c'est pas comme si Facebook existait depuis hier.
Oh non, ça a été monté en 2019, je crois, donc c'est nouveau. Voilà, c'est un peu la patate chaude dans le camp de...
Alors, puisque tu parles du Digital Service Act, j'aimerais moi aussi revenir là-dessus, hein, puisque ça y est, c'est officiel, hein, tu l'as dit, les 27 membres de l'UE ont voté cette nouvelle loi qui s'appelle donc le DSA, et qui va vraiment, pour le coup, faire du tort, en tout cas, obliger les GAFAM à bouger, hein, notamment contre leurs abus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, hein? Qu'est-ce que ça marche le Digital Service Act, il explique que ce qui est illégal hors ligne devrait aussi être illégal en ligne, ce qui semble un peu une base, mais pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qui change ? Le DSA, le Digital Services Act, il compte interdire notamment les comptes publicitaires ciblés qui visent les enfants. Ok, ça semble logique.
Classique.
Et on a l'impression que c'est déjà le cas. Mais aussi les pubs qui se fondent sur les données personnelles sensibles. Et notamment, et là c'est plus compliqué, la religion, le sexe, attention, la race ou les opinions politiques. Et ça, mine de rien, ça va faire un gros gros changement, c'est la manière dont les GAFAM arbitrent leur publicité. Autre truc qui va changer, c'est les plateformes devront signaler ce qu'elles utilisent un algorithme de recommandation. Ça nous semble une évidence à nous qui sommes acteurs du social media qu'évidemment il y a des algorithmes de recommandation, mais c'est pas le cas pour tous les utilisateurs. Il va falloir maintenant le signifier très clairement, et en plus de ça, offrir la possibilité de se passer de cet algorithme de recommandation, c'est-à-dire accéder à un feed qui soit non personnalisé, ce qui est loin d'être le cas.
Ce que vient de faire Instagram, par exemple, en changeant son feed.
Exactement. Ensuite, ultime truc à noter sur cette loi DSA, elle souhaite mettre aussi fin à ce qu'on appelle les dark patterns. Qu'est-ce que c'est exactement les dark patterns? C'est les techniques qui visent à manipuler les internautes. Tu sais, le fameux bouton de confirmation qui t'incite à accepter les cookies, quand tu as des trucs un peu emboîtés comme ça. Bref, tout ça va faire bouger les lignes, c'est plutôt une bonne chose. À noter que là aussi, l'UE a mis en place des procédures qui vont permettre l'application de ce DSA. C'est pas juste donc application à compter de 2024, donc c'est pas tout de suite.
Il laisse le temps aux plateformes en plus de s'ajuster quand même.
Mais il prévoit d'avance que Google et Meta seront audités tous les ans sur ce sujet-là, donc c'est quand même assez sérieux. Et que des amendes peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires global de l'entreprise, et l'interdiction d'opérer en Europe, notamment en cas de récidive. Donc
ils savent qu'il faut les surveiller les deux.
Voilà ce que je pouvais un peu compléter sur le DSA.
Écoute, je trouve ça intéressant et je vais continuer quand même un peu sur ce sujet parce que j'ai l'impression que ça a influencé les Américains, puisqu'on a Obama qui nous a fait un joli discours jeudi dernier devant les étudiants de Stanford en Californie, donc au milieu de la Silicon Valley. Et l'ancien président des États-Unis, qui a son époque lui très bien manœuvré durant ses campagnes avec les réseaux sociaux, on sait que ça a été stratégique dans sa campagne de communication. C'est un des premiers en termes de campagne politique, en tout cas dans les présidentielles américaines. Voilà, c'était vraiment un cas d'école et un précurseur dans son utilisation des réseaux sociaux. Et bah aujourd'hui, il appelle clairement à réguler les réseaux sociaux qui, pour lui, seraient responsables de l'affaiblissement des démocraties. En gros, il a reconnu lui-même qu'il n'aurait pas été élu sans MySpace et Facebook à l'époque. Donc, je trouvais ça drôle qu'il parle de MySpace, tu vois, au milieu de tout ça. Je n'avais pas le souvenir qu'il avait utilisé beaucoup MySpace. Mais qu'en gros, bien sûr que les plateformes sociales, ça peut être un superbe outil de sensibilisation ou de mobilisation aussi pour des militants dans le monde entier, etc. Il a fait l'éloge quand même des bons côtés aussi des réseaux sociaux, mais il alerte sur les modèles économiques des succès de Facebook et de YouTube, et notamment de la publicité ciblée. Donc on en revient encore à cette collecte d'informations et comment elle est utilisée aujourd'hui. Lui, il dénonce que forcément ça provoque beaucoup de contenu inflammatoire qui polarise les débats et les avis de tout le monde, et qui favorise du coup la désinformation. Et c'est ça que, pour lui, c'est là-dessus que repose la désinformation. C'est plus sur un système global de comment fonctionnent aujourd'hui les plateformes plutôt que juste sur le fait de combattre ou non les fake news. D'après lui, l'élection de Joe Biden, avec la non reconnaissance de sa défaite de la part de Donald Trump et l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, où il y avait quand même eu des morts, etc., c'est une vraie sonnette d'alarme pour les États-Unis, d'après Obama. Et puis, lui, il appelle tout simplement à une réforme des lois qui aujourd'hui encadrent ces réseaux sociaux aux États-Unis. Il veut qu'on soit un petit peu plus dur avec les réseaux sociaux, et pour essayer de les rendre plus transparents, plus responsables, pour éviter justement d'avoir toutes ces dérives un peu de...
Mais Barack, il est en train de se présenter la candidature de présidence européenne de l'UE, j'ai l'impression. Fait, c'est exactement la même chose. La pression s'accentue, que ça soit en Europe ou aux États-Unis.
J'ai trouvé ça très étonnant aux États-Unis. En plus, on sait qu'il y a un pays qui est quand même beaucoup plus là-dessus, j'allais dire laxiste, c'est ma vision d'Européen, mais en tout cas plus libre, qui me laisse beaucoup plus de liberté autour du fonctionnement des réseaux sociaux que nous en Europe, où ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ces lois pour encadrer les réseaux. J'ai trouvé ça assez intéressant qu'il y ait quand même une grosse stature politique comme ça qui prenne cet avis-là.
Allez, moi plus léger cette fois-ci, on va basculer du côté de TikTok avec... le retour du bouton je n'aime pas, mais du coup cette fois-ci sur TikTok, TikTok vient d'annoncer le test de ce bouton dislike sur sa plateforme. Alors on sait, ce bouton dislike il fait beaucoup parler, et sur toute plateforme confondue, c'est parfois inattendu. On se dit en tout cas l'exclusivité du bouton like pourrait être contrebalancée par le dislike. Donc TikTok a décidé de le tester, et ça va permettre aux utilisateurs notamment d'identifier les commentaires qu'ils pensent inappropriés ou qui ne les intéressent pas.
Yes.
Attention, ça concerne exclusivement les commentaires, ce qui est peut-être différent de ce qu'on a vu en test sur d'autres plateformes où ça concernait le post directement.
Ça existe notamment sur YouTube, hein, par exemple.
Exactement.
Sur YouTube, on a le dislike sous toutes les vidéos.
Et les créateurs qui recueillent une proportion trop élevée de dislikes, eh bien, ils vont être amenés à recevoir des notifications, les amenant à reconsidérer peut-être justement l'angle de leur contenu ou à modérer eux-mêmes les conversations clivantes. Donc ça, je trouve ça intéressant que ça marche dans ce sens-là. C'est
carrément
aussi de responsabiliser les créateurs de contenu en disant, hey, regardez, y a, au milieu, il y a un commentaire, là, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis, alors ce qu'on ne sait pas, c'est si cette fonctionnalité, elle va avoir un impact sur le classement des commentaires sous les vidéos. Est-ce que les commentaires qui ont beaucoup de dislikes se retrouvent tout en bas de la liste ou au contraire sont mis en avant? Est-ce qu'ils sont plus en... Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'un des objectifs pour TikTok, c'est clairement de nourrir le machine learning de son intelligence artificielle. Il l'explique assez clairement, en gros, à terme de renforcer ses capacités de modération proactive de la plateforme, faire en sorte de nous donner à nous, utilisateurs, des leviers nous permettant de dire ça, on aime, ça, on n'aime pas, pour qu'ensuite le machine learning puisse apprendre et potentiellement planquer davantage certains contenus insultants, violents, clivants, etc.
Ça, c'est très intéressant. Et puis, je trouve aussi que ça redonne une autre place à la modération sur TikTok que je trouvais jusque-là, en tout cas le conversationnel sur TikTok que je trouvais jusque-là un peu en recul par rapport à d'autres plateformes, parce qu'on sait que dans l'algorithme de TikTok, y a d'autres choses qui rentrent en compte par rapport au conversationnel, même si ça compte aussi. Je trouve que le remettre en avant de cette manière-là, effectivement, comme tu disais, ça va obliger les créateurs de contenu à prendre en compte ce qui est raconté à l'intérieur et du coup, bah, peut-être aussi, effectivement, comme tu dis, à angler leur contenu un peu différemment. Moi, je voulais vous parler de quelque chose de plus léger aussi, de WhatsApp, hein, qui est encore en panne, nouvelle panne de WhatsApp qui a touché plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde au début du week-end, là, dernier. Ça fait depuis un an que WhatsApp connaît quand même de nombreuses interruptions. Moi, premier réflexe, je me suis dit, c'est bon, bah, normal, le groupe Meta travaille toujours sur son interopérabilité de ses plateformes entre Messenger d'un côté, Instagram direct et puis WhatsApp. Donc, de temps en temps, ça fait bugger un peu le système, le temps que ça remette en jour. Tu vois, il y a un mec qui doit faire une mise à jour sur un ordi dans la Silicon Valley et hop, ça repart
pour
tout le monde.
T'as pas fait la mise à jour quand même. Ouais, je comprends.
Et sauf que bah, d'habitude, quand ça se passe, il y a tout qui tombe en même temps, Instagram, Facebook, WhatsApp, et puis hop, ça repart dans les minutes qui suivent. Et puis voilà. Là, c'est juste WhatsApp qui est tombé au début du week-end. Donc plusieurs milliers d'utilisateurs qui ont vraiment bugué en France aussi, et toujours assez marrant, c'est que bah, quand il y a une plateforme comme ça qui chute, qui tombe, qu'est-ce que fait tout le monde ? Tout le monde va sur Twitter pour voir si ça bug ou pas.
Twitter,
quoi.
C'est le SAV des GAFAM. Mais
c'est magnifique. Ouais. C'est pour ça qu'Elon Musk a dû racheter.
Je
détiens le SAV. Et du coup, bah, voilà, comme à chaque fois, vous vous retrouvez avec les meilleurs mèmes du coin sous le hashtag WhatsApp. Alors, il faut savoir quand même qu'en France, le hashtag WhatsApp sur Twitter, il est passé en top tendance jeudi soir, alors qu'il y avait en même temps, par exemple, un match de foot avec Marseille qui joue en demi-finale de Coupe d'Europe, justement. Bah, hashtag WhatsApp était devant le hashtag du match et tout. C'était quand même assez impressionnant. Donc vous pouvez aller retrouver tous ces mêmes là. Vous pouvez aller regarder sous le hashtag WhatsApp Down et là-dessous vous avez quand même pas mal de petites pépites sur, voilà, sur une petite plateforme qui tombe comme de temps en temps, quoi.
Allez, basculons du côté d'Instagram si vous voulez bien. Instagram qui va bientôt nous permettre d'épingler des posts en haut de notre grille.
Incroyable.
Ça, c'est quand même, mine de rien, une grosse news, hein. Ça fait déjà quelques mois qu'on le voyait venir, mais ça y est, Instagram teste officiellement les posts épinglés sur un certain nombre de ces profils. Comment ça marche ? Eh bien, certains utilisateurs peuvent désormais sélectionner une petite option au moment de publier ou même après, hein. Tu sais, comme tu as l'option modifier mon post, eh bien là, tu as une option épingler à votre profil, ce qui permet d'ancrer ces posts tout en haut de leur grille. En gros, c'est un peu comme sur Facebook, comme sur Twitter ou peut-être même comme sur TikTok, évidemment. Ça ressemble beaucoup à TikTok où aujourd'hui je peux épingler deux vidéos en haut de mon profil. Instagram, là, de son côté, propose d'épingler trois posts, les trois premiers en haut de ta grille, en fait.
Comme, vraiment comme TikTok, non ? C'est exactement TikTok,
exactement le même
pareil,
principe.
Ouais,
hein. Et là, attention, ça va faire bouger quelques lignes, tout ça, évidemment. Hein, parce que la première chose, c'est que ces trois posts épinglés, ils peuvent devenir un outil précieux pour continuer à muscler aussi l'efficacité de son profil Insta. On le sait aujourd'hui, tu as les highlight stories qui sont très utiles pour, on va dire, ancrer un certain nombre de messages de marque. Et là, imaginons ce qui peut se produire si les trois premiers posts de ma grille peuvent me permettre d'enfoncer le clou de façon très visuelle. C'est intéressant et on imagine que ramener à certaines marques, c'est quelque chose qui va être fort utile. utiliser. Idem, par exemple, pour les marques utilisant Shopping. Hein, tu peux imaginer que tes trois best-sellers, tu les mettes à l'affiche.
Ah, ça peut être ultra intéressant. Ça peut te permettre, de, comme tu disais, de mettre en avant soit un peu des valeurs de marque, travailler un peu ton why, soit tu peux aussi, tout le contraire, balancer ton offre directement là pour que ça saute aux yeux dès qu'on arrive sur ta page.
Exactement. Et c'est peut-être aussi un espace qui va être propice pour renforcer les performances de certains contenus. C'est pas mal comme ça aujourd'hui que les posts épinglés sont utilisés côté TikTok, c'est-à-dire j'ai un contenu qui organiquement, viralement fonctionne bien, je veux lui offrir
un peu plus de force,
je le positionne en haut de ma grille et je m'assure comme ça que la porte d'entrée, ça soit mes contenus les plus performants. En tout cas, ça va, réellement ça se met en place pour tous les comptes, ce qui semble être le cas, ça va nous contraindre, je pense, à réimaginer la manière d'aborder la grille.
Je crois que certaines personnes l'ont déjà, hein. Je crois que c'est déjà arrivé en test sur certains comptes.
Y compris en France. Ouais. Eh ben, ça, c'est intéressant. Voilà.
Écoute, ultra intéressant cette news sur Insta. Je crois qu'on a fait le tour de ce que tu avais, Thibaut, dans le pack.
Moi, j'ai fait le tour de mes actus pour ce lundi. Évidemment, on dès toute la semaine, à 9h du mat, ici en direct sur Twitch.
Bien sûr.
Ou dans vos oreilles, en balado-diffusion, on est avec vous.
Est-ce qu'on va parler de Snapchat cette semaine, Thibaut ?
Non, il n'y aura pas de Snapchat.
Ah, là,
mais on a d'autres trucs très cool.
Alors, la semaine prochaine, alors, peut-être, les amis. Bon, écoutez, si vous avez d'autres news que vous avez vu passer, ou en tout cas que vous avez envie d'en échanger avec nous, ou si celles qu'on a évoquées ce matin vous ont fait rebondir, n'hésitez pas à venir en parler avec nous sur les réseaux sociaux @supernatif, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, on est partout où vous êtes. Et puis si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, vous pouvez venir nous écouter tous les matins sur Twitch à 9h, hein, pour pouvoir échanger avec nous en direct dès la fin de l'épisode. Ou alors vous pouvez aussi juste nous laisser une petite note, un commentaire, ça nous fait kiffer sur les plateformes et ça nous permet de remonter un petit peu dans les algorithmes.
Merci à vous tous, on vous embrasse et on vous donne rendez-vous dès demain. Salut tout le monde, ciao, bye.